Donc, comme on vous a dit, je suis chirurgien de la main. Donc, je fais essentiellement la chirurgie du membre supérieur, les nerfs périphériques et deux, trois autres choses. Mais on est aussi sous la pression de l'urgence. Donc, on a vu très, très rapidement les effets que ça pouvait donner et de ce qui pouvait se passer. On pouvait s'interroger. Le problème de la connaissance chez la femme n'est pas très, très nouveau. Il a été abordé il y a fort longtemps et notre cher confrère Rabelais avait déjà dit ou fait dire à Gargantua, qui écrivait à son fils Pantagruel en études à Paris, dans une lettre absolument merveilleuse que je vous conseille de lire sur la transmission du savoir, qui est quelque chose d'absolument magnifique, que les femmes allaient vers cette manne céleste du beau savoir. Effectivement, elles y sont allées. Elles y vont depuis 20 ans, ce qui n'est quand même pas un mouvement soudain, subreptice, parce qu'entre 1988 et 2008, le pourcentage de femmes s'inscrivant en médecine a augmenté de 159%. On ne peut quand même pas dire que c'est un phénomène marginal, comme certains de nos chers confrères veulent se plaire à le dire. Alors, à quel titre je vous parle de ça? Il se trouve que j'étais amené à faire à Sciences Po Paris un master de gestion et politique avec un S, et je tiens beaucoup au S, de santé, avec Didier Tabuteau, qui est ce monsieur au milieu, et mon directeur de mémoire était Pierre-Louis Bras, tout genre que si vous fréquentez un petit peu les couloirs et les arcanes des gouvernants en matière médicale, vous devez fortement connaître. Ça a donné lieu à... J'ai commis un petit bouquin qui traite du sujet, si ça peut vous intéresser. Tout ce que je vous raconte ce soir y est, simplement j'ai un peu réactualisé les chiffres. En fait, cette problématique des femmes dans la chirurgie, ou dans la médecine en général, tient à peu près en quatre lignes. La première ligne, on peut dire, c'est la baisse régulière d'une dizaine de pourcents projetée à l'horizon 2025 des médecins généralistes, 10 à 15%. Deuxième ligne, c'est la diminution, sans doute un peu moins importante, mais nette quand même, des spécialistes, des médecins spécialistes, aux alentours de 5, 8, 10% selon les chiffres. Ces estimations, comme pas mal de celles que je vous montrerai, ont été faites dans les années 2004, qui était le creux de la vague du recrutement chirurgical au niveau des étudiants. C'était assez impressionnant. Et donc, toutes ces prospectives se sont trompées, bien évidemment. Vous en aurez une démonstration absolument magnifique tout à l'heure. Quatrième ligne à suivre, c'est la diminution des hommes dans le corps médical tout venant, puisqu'on projette une diminution de pas loin de 30%, voire plus, des hommes à l'horizon 2025, alors que parallèlement, on dirait symétriquement, les femmes vont augmenter leur proportion dans le corps médical aux alentours de 30%, toujours à cet horizon 2025. Au PCEM, donc pour la première année de médecine, il y avait 46 000 et quelques, presque 500 candidats en 2009 pour 7 400 places. 67% des reçus étaient des filles. C'était la même chose l'année d'avant et l'année d'avant également. Donc, il faut prendre en compte cette modification de la population des médecins émergents, j'allais dire. Et l'ONNPS, donc l'étude statistique prospective médicale, en 2004, voyait la parité homme-femme, je suis toujours en médecine tout venant, aux alentours de 2015. Quelle bévue ! Au 1er janvier 2009, 52% des inscrits au Conseil national de l'Ordre des médecins étaient des femmes. Donc la parité, elle est là, elle l'est déjà depuis plus d'un an, deux ans même maintenant. Pour comprendre ce mécanisme, pourquoi les choses se passent comme ça et qu'est-ce qu'on peut en conclure, ou du moins qu'est-ce qu'on peut penser autour de ça, je pense qu'il faut convoquer plusieurs lectures, plusieurs logos, pour être un peu pédant. L'augmentation du pourcentage de femmes en médecine, c'est de l'histoire. La diminution des hommes en médecine, c'est de la sociologie. Les deux termes peuvent parfaitement s'inverser et dire que l'un est de l'autre et l'autre est de l'un. La diminution des médecins généralistes et des spécialistes, on peut dire que c'est de la politique. Et il faut lire un peu cette évolution des chiffres et des populations à la lumière de ces trois lectures. Je pense que c'est absolument fondamental. Aux alentours, en 2009, il y a environ 200 000 médecins en France installés. La moyenne d'âge est très élevée. Si vous regardez la pyramide des âges, c'est assez inquiétant. Les hommes médecins en France aujourd'hui ont une moyenne d'âge supérieure à 50 ans, 51, 52. Les femmes, un petit peu moins, 47 ans. Sur ces 200 000 médecins, grosso modo, 25 000 sont des chirurgiens. En 2009, 27% étaient des femmes. Déjà 27%. Or, vous lirez dans des revues professionnelles médicales considérées comme de bonne tenue que c'est un phénomène marginal, que de toute façon ça ne changera rien, je crois que c'est une erreur profonde. Il est vrai que sur cette répartition des 27,6%, l'inégalité est encore très tranchée sur certaines spécialités, avec une majorité de femmes en ophtalmologie, mais l'ophtalmologie est déclarée comme spécialité chirurgicale, mais il y a de l'ophtalmologie médicale qui concourt à ces effectifs. En gynéco, c'est, je dirais, naturaliste comme analyse. En chirurgie infantile, même réflexion. Dans les moins, il y a l'urologie, qui semble immédiatement accessible dans le raisonnement. Par contre, la chirurgie vasculaire et thoracique est très très mal pourvue, ou du moins l'était. Et l'orthopédie. L'orthopédie, je m'y arrêterai un petit peu tout à l'heure, est aussi une des plus mal pourvues, au prétexte que, pour des raisons tout à fait naturalistes sur lesquelles on reviendra, la femme est trop faible, elle ne peut pas faire un fémur, ça ne veut rien dire. D'abord, il y a des femmes musclées, ensuite de quoi, le fémur, ça peut être fait aussi de façon un peu délicate, il ne faut pas exagérer. Il faut bien comprendre que cette modification de la population médicale, ça survient dans un moment particulier. La population est vieillissante, on vous dit tous qu'on gagne grosso modo un trimestre d'espérance de vie par an, ça fait une année d'espérance de vie supplémentaire par an, tous les 4 ans, pardon. C'est vrai, la population vieillit, mais les médecins sont aussi des gens de la population en tout venant, et ils vieillissent aussi. Je vous ai dit, et j'insiste, la population médicale en France aujourd'hui vieillit, et vieillit de façon importante. Plus de 55% des médecins aujourd'hui ont plus de 50 ans. Et les plus de 55 ans représentent ou vont représenter 40% des effectifs, c'est beaucoup. Au 1er janvier, les moins de 40 ans avaient diminué 12% dans la population médicale active, alors que les plus de 50 ans avaient augmenté de plus de la moitié. C'est considérable. D'autant que les plus âgés se retrouvent dans les populations médicales à exercice les plus à risque, entre guillemets, d'un point de vue activité, en chirurgie et en anesthésie-réanimation. Ou disons où là la charge et le stress et l'activité est lourde. Ça pose des problèmes de disponibilité. Donc cette féminisation survient dans ce contexte-là aussi, et il est à prendre en compte. Les projections qui avaient été faites en 2004, 2005, 2006 étaient très inquiétantes et elles insistaient sur le burn-out des chirurgiens. Grosso modo, et pour parler français, les chirurgiens, ils en ont marre. De quoi ils ont marre ? Ils sont inquiets sur leur avenir, il y a la judiciarisation de la profession. Ils voyaient les internes qui ne venaient plus faire de la chirurgie, et ça a duré à peu près 3 ans, 3-4 ans, où il y a effectivement eu un creux de la vague du recrutement. Et les projections étaient très alarmistes, avec un déficit chirurgical ou de médecins spécialistes frisant les 30%, non plus à l'horizon 2025, mais à l'horizon 2020. Ceci dit, pour un vieux chirurgien comme moi, la crise de la chirurgie française, parce qu'il y a toujours l'adjectif français qui vient se rajouter, j'entends ça depuis 20 ans, 25 ans. Ça veut dire qu'on est sûrement des gens qui n'ont pas fini leur crise d'adolescence, mais enfin, toujours est-il qu'il y a une crise, certes, mais avant de se lamenter, on peut essayer d'en voir les causes et voir un petit peu quels en sont les tenants et les aboutissants. C'est vrai, par contre, qu'il y a des problèmes qui ont accusé ce déficit. Il y a le problème du numerus clausus, qui a été remonté, mais assez tardivement par rapport aux nécessités. La judiciarisation, comme je le disais très mal tout à l'heure et aussi mal maintenant, n'arrange rien. Il y a certaines spécialités qui sont très exposées. Vous savez que les gynécologues obstétriciens sont ceux qui ont le plus à voir avec ce genre de problème. Les anesthésistes sont assez bien servis aussi. Et puis, il y a cet empilage de réformes successives qui fait que, quelle est la dernière réforme? Elle n'est pas encore entrée en action, qu'on vous en propose une nouvelle, tout aussi complémentaire, semble-t-il, que la précédente, mais pas de façon toujours très exacte. Donc, il y a le virage de la féminisation médicale, qui est beaucoup plus amplifié sur le côté chirurgien, parce que la féminisation, là, elle devient massive. Et tout ça s'intègre dans cette espèce de problématique de la chirurgie en général. Pour ceux, si jamais il y en avait parmi vous qui n'étaient pas très au fait des études médicales, je vous rappelle que pour former un chirurgien aujourd'hui, il sort du bac, il se présente au DCEM1 en première année, il passe un concours où il y a en moyenne 18% de reçus. Sur ces 18% de reçus, 65% de filles, ce qu'on disait tout à l'heure. Il rentre ensuite dans la dernière année de premier cycle, puis les 4 années de deuxième cycle. Et à la fin de ces 4 années de deuxième cycle, il a un examen. Ça n'est plus un concours, c'est l'ancien internat, maintenant c'est devenu un examen. il est classant et il est national. Autrement dit, vous êtes premier, vous choisissez ce que vous voulez. Vous êtes dernier, eh bien, vous allez faire de la médecine du travail à Thionville. Bon, en modo, c'est à peu près ça. En 2010, il y avait 557 postes de chirurgie proposés à cet examen classant sur les 6839 postes qui étaient au choix. Pour avoir la chirurgie, n'importe où, il fallait être 3686e et c'était à Brest. Pour faire de la chirurgie à Paris, il fallait être entre 90 et 1245. Pour être à Grenoble, il fallait être entre le 15e rang et le 1961e rang. Grosso modo, et c'est une quasi-constante, Bordeaux 25e à 2575, grosso modo, il faut être dans la première moitié, voire le premier tiers. Et cette pente qui s'était vraiment infléchie pendant les années 2004, 2005, 2004, 2, 3, 4, jusqu'à 5, remonte de façon très très nette. Donc il y a une appétence pour la chirurgie qui est revenue toute discipline et tout sexe confondu, j'allais dire. Une fois le concours, vous rentrez dans la filière de ce qui était l'internat pendant 5 ans avec une année recherche, et il y a un clinica. Ce clinica est de 1, 2 ou 3 ans suivant les spécialités et suivant ce que demandent les CNU pour les uns et pour les autres, et c'est au bout de ces 12 à 14 ans que vous êtes chirurgien estampillé, effectif, en activité, à responsabilité. Vous pouvez vous installer ou rester à l'hôpital suivant vos choix. Donc le parcours est assez long. Il est semé d'embûches relatives, sachant que l'examen classant a quand même complètement modifié le parcours de gens qui n'auraient pas forcément eu le loisir d'accéder, on va dire, à des connaissances qui sont quand même nécessaires. Classiquement, les femmes choisissent plus les spécialités médicales, puis la pédiatrie, la médecine générale. Et la chirurgie venait en quatrième choix. Les hommes, eux, c'est d'abord les spécialités médicales, cardio, néphro, et après les spécialités chirurgicales. Et en 2008, s'est passé quelque chose d'intéressant. Les femmes sont toujours mieux classées que les hommes. En 2007, c'était les trois premiers au concours classant étaient des femmes. Il y avait 7 femmes sur les 10 premiers et 27 sur les 50 premiers. L'activité chirurgicale, comme je viens de vous le dire, reste quelque chose de vif et de vivant chez les mieux classés. Il y a une appétence pour les gens qui se retrouvent mieux classés. Du coup, il y a une féminisation très nette des effectifs par entraînement. Et en 2008, 40% des postes de chirurgie ont été choisis par des femmes. Il ne faut pas dire que c'est un phénomène marginal. 40% des postes, ça veut dire que dans 7 ans, 40% des femmes chirurgiens, des chirurgiens en France seront des femmes. Si on appelle ça marginal, je trouve que les lunettes sont un peu à reprendre. Comment on en est arrivé là? Cela n'a aucune connotation péjorative, croyez-le bien. En fait, si on fait un petit peu d'histoire, la femme s'est occupée de l'homme depuis toujours. Et de l'aimable matrone jusqu'à la sorcière, elle a toujours eu affaire au corps, de par déjà sa structure de femme qui donne la vie et qui a donc à voir au corps au plus près et au corps de l'autre, le sien, celle de ses congénères, celle de ses enfants et puis après de ses conjoints, dirons-nous. Et j'aime beaucoup cette phrase de Madame Lapeyre, qui est une sociologue, qui m'a fait beaucoup douter du sujet. Parce qu'effectivement, on peut se demander si c'est un vrai sujet. Les femmes, depuis toujours, sont dans le soin, dans ce que les anglo-saxons appellent le care. Simplement, ce qui a changé, c'est la position hiérarchique. Et c'est ça qui a tellement perturbé la gente masculine qu'il y a eu des réactions assez vives, comme vous allez le voir. Donc cette féminisation, elle est là, elle se produit, elle avance, elle est absolument irrémédiable. Elle n'est pas nouvelle. Chez les Égyptiens, le mythe fondateur d'Isis-Osiris, c'est Seth qui coupe Osiris en morceaux. Isis, aidé d'Anubis, recolle les morceaux. Donc la sainte patronne des chirurgiens réparateurs devrait être Osiris. Et avec cette réparation tout à fait performante, finalement, Osiris et Isis auront un fils, Horus, qui prendra la double couronne d'Égypte, ce que ne voulait pas, ou c'était le motif de l'assassinat, on va dire, par Seth de Osiris et d'Isis. Donc ça fait, depuis la nuit des temps et depuis que l'on peut tracer, la femme a une place dans le soin, elle a été la gestionnaire de la panacée par les plantes, par les herbes, par tous les moyens qu'on a pu imaginer. Et dans l'Égypte ancienne, elle était formée au temple, comme les prêtres, et les médecins étaient très liés aux prêtres et au temple. Ce statut a perduré relativement longtemps. En Grèce, le statut de la femme a été un petit peu particulier, puisque donc les Asclépiades, donc sur le site d'un sanctuaire à Asclépios sur l'île de Kos, une école de médecine, il faut l'appeler comme ça, s'est fondée. Hippocrate en est sorti, si l'on peut dire. Mais la femme a été reléguée aux basses besognes, on pourrait presque mettre ça comme ça. Puisque la loi va même jusqu'à interdire la pratique de la médecine aux esclaves et aux femmes, ce qui est tout à fait réjouissant. Et elle est éloignée un peu du geste. Il n'empêche que Aspasie, qui était la maîtresse de Périclès, qui d'ailleurs a une réputation un petit peu sulfureuse, opérait, soignait les gens. Fanny Arrêtée, ça c'est encore plus joli d'un point de vue signifiant et signifié, Fanny Arrêtée, c'est la mère de Socrate. Elle était sage-femme. Phainomai en grec, ça veut dire je montre. Et Arrêtée, c'est la perfection, la chose bien faite. C'est quand même assez troublant. On peut dire donc que la mère de Socrate, sage-femme, était la grand-mère de la maïotique, si on admet que Socrate en était le papa. Toujours est-il que c'était une femme qui soignait. Et il y a très peu de traces dans l'histoire antique de ces femmes. Et puis, il y a celle que vous avez choisie pour la plaquette aujourd'hui, qui est Agnodice. Agnodice, au IVe siècle, soignait dans l'Athènes de l'époque les femmes et intervenait même, semble-t-il, chirurgicalement parfois. Et elle le faisait déguisée en homme, sous le nom de Miltiade, alors pas Miltiade le stratège, Miltiade, et elle a été découverte. Découverte, elle a été emmenée devant l'Aréopage, qui l'a condamnée à mort, puis au bannissement, et première manifestation féminine, féministe, dans la Grèce antique, les femmes sont descendues sur l'Aréopage pour faire gracier Agnodice, qui a pu reprendre ses activités, cette fois-ci, en femme. Si on continue à remonter en allant d'une façon excessivement rapide, même indécente, mais je ne veux pas qu'on en fait autrement. On retient quelques noms de femmes importantes, si on peut dire, dans le soin, dans la chirurgie ou l'avenir de la pratique. Il y a Fabiola. Fabiola était une patricienne romaine qui a suivi les idées d'Oribase, qui était le médecin de Julien l'Apostat, et qui a créé ce qu'on appellerait aujourd'hui le premier hôpital, sous le titre de Nosocomeion, donc l'endroit où l'on soigne. Ce nom de nosocomium, qui est aujourd'hui bien connu pour les infections du même nom, a été en fait repris au XVIIe siècle par un flamand qui s'appelait De Beuck et qui a ouvert le premier hôpital, on va dire, de l'Europe moderne, en reprenant quoi ? En reprenant les idées qu'avaient repris les Arabes et surtout les médecins andalous, de la littérature et des traductions grecques qu'ils avaient ramenées dans un Moyen-Âge encore un petit peu balbutiant sur ces domaines. Donc c'est ces hommes du désert, ces hommes des courants qui ont compris justement qu'il fallait des courants sans aucun jeu de mots, des courants d'air dans des structures où on accueillait les malades. C'est tout à fait, la médecine andalouse est quelque chose d'absolument impressionnant par sa vision prospective. Puis il y a quelques noms qu'il faut avoir vraiment entendus, c'est l'école de Salerne qui a été fondée par des bénédictines au 7e siècle, qui est la première école médicale presque universitaire, on pourrait dire, et qui a ouvert ses portes très très tôt à des laïcs, y compris aux femmes, et au XIe siècle, des femmes apprenaient la médecine et la chirurgie à Salerne sous une structure bénédictine, ce qui est quand même preuve d'une certaine ouverture d'esprit, si vous savez un peu ce qu'est un bénédictin. Parmi ces femmes, une est absolument extraordinaire, c'est Trotula di Ruggiero, qui a été élève, puis est devenue professeur, a enseigné à l'école de Salerne, et a même écrit un ouvrage sur la gynécologie obstétrique, on va appeler ça de façon moderne de cette façon-là, où elle dit que la stérilité, c'est pas seulement la femme, ça peut aussi être l'homme, que la femme, elle a le droit aussi de recevoir et de ressentir quelque chose au moment de l'acte sexuel, enfin des choses qui, pour le XIe siècle, je vous avouerai, étaient assez en avance sur son temps. Ça a été copié, plagié sans vergogne par tous les grands noms de la médecine européenne des siècles suivants, sans jamais la citer, bien évidemment. Un petit peu plus tard, au XIIe siècle, vous connaissez Hildegard von Bingen, qui était une abbesse de la vallée du Rhin, qui elle aussi a eu des des prémonitions ou des compréhensions tout à fait lumineuses, et avant Harvey et bien d'autres, elle a vu le rôle du cerveau, le rôle de la circulation sanguine, et ça a été quelque chose d'absolument invraisemblable, qui est un peu retombé dans l'oubli, parce que la femme restait femme, c'était quand même potentiellement une sorcière, c'était donc pas elle qui devait savoir, c'était surtout pas elle qui devait avoir la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir, ça n'est pas tolérable. Dans un Moyen-Âge où la grammaire et la médecine, c'est un petit peu la même chose. Donc si on a la grammaire, on a la connaissance de la signification du verbe, du discours, et si on a la médecine, on a la connaissance du corps. Mais le corps, c'est Dieu qui l'a donné. On ne va pas laisser une femme dialoguer avec Dieu, c'est vraiment intolérable. Donc ce Moyen-Âge-là va sataniser les femmes de façon assez importante et va vraiment limiter leur essor médical, on va dire. Vous savez que le Concile de Latran, au début du XIIIe siècle, donc sous Philippe Auguste, va interdire aux prêtres de verser le sang. Ça va être un coup d'arrêt très important au développement d'une chirurgie potentiellement réglée, cadrée et intellectuellement fertile. Et il y aura la partition entre les chirurgiens et les médecins. Montpellier 1220, Toulouse 1229, Paris 1253, c'est la formation des universités en France, avec un édit de 1220 qui interdit aux femmes et aux chirurgiens la pénétration dans les facultés. Le racisme était déjà à l'œuvre, pas seulement sur les femmes, mais aussi sur les chirurgiens, quand même un scandale. Au XIIIe siècle, Saint-Louis va demander au chanoine Pitard d'organiser un petit peu ce qui était la chirurgie en émergence. Et c'est ce brave Jean Pitard qui va créer les chirurgiens de robe longue, qui parlent latin, qui auront le droit d'aller à l'université et qui regarderont avec un mépris souverain les chirurgiens de robe courte qui ne parlent pas latin mais qui opèrent et qui vont mettre les mains dans le sang et dans la matière. Ce sont les barbiers ou les fils des anciens barbiers. Il faudra attendre Louis XIV, en 1691, pour qu'il existe une chaire de chirurgie à la faculté de médecine sous le courroux absolument invraisemblable de la faculté de médecine installée, qui trouvait absolument insensé que ces chirurgiens puissent venir dans leur faculté. Et le lieu d'enseignement des chirurgiens a été laissé aux barbiers et aux perruquiers. Et il y a des très jolis textes qui vous montrent que dans les couloirs de ce lieu où était enseignée la chirurgie, ça sentait la poudre et le parfum. C'est assez amusant. Le Haut Moyen-Âge, pour revenir à l'avancée dans l'histoire, les femmes ont une place qui donc est tout à fait discutée. Les religieuses visitent les malades, mais ce n'est qu'au moment de la guerre de Crimée, avec Florence Nightingale, donc au milieu du XIXe siècle, que l'infirmière va devenir une part du soin. Avant, l'infirmière, elle nourrissait les mourants ou les malades, et elle faisait la toilette des corps des morts. Elle n'avait pas une place de soin bien, bien importante. Et petit à petit, les choses s'aggravent encore, puisque l'Inquisition n'arrange en rien, puisqu'elle trouve que c'est vraiment les sages-femmes qui ont fait le plus le tort à l'Église, et que vraiment les femmes, c'était des sabbats permanents avec des orgies pas possibles, qu'une femme médecin, c'était impensable. Charles IX n'a pas fait que des horreurs, et c'est lui qui rattachera les sages-femmes à ce qu'on peut appeler un collège de chirurgie au départ, avec l'émergence très rapidement dans la suite de grands noms. Le premier grand nom en gynécologie obstétrique, c'est une élève d'Ambroise Paré, c'est Louise Bourgeois. C'était l'accoucheuse de Marie Médicis. Elle commence à faire de l'enseignement pour les sages-femmes. Elle crée pratiquement l'activité de sage-femme. Et petit à petit, les barbiers vont être écartés de cette activité de gynécologie, enfin surtout d'obstétrique, au prétexte de décence, bien entendu. Vous avez sans doute entendu parler encore d'un grand nom de cette gynécologie, c'est Angélique Le Boursier du Coudray, qui au XVIIIe siècle met pratiquement sur pied la FMC pour gynécologue accoucheur. Et elle va faire un véritable tour de France, répété pendant 25 ans, le TGV n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, en promenant son petit matériel de démonstration, c'est le mannequin qu'utilisait Madame Le Boursier du Coudray au XVIIIe siècle, qui est encore visible aujourd'hui. Et c'est avec ce matériel qu'elle faisait la démonstration des accouchements. Donc il y a toute une féminisation de la chirurgie via la gynéco-obstétrique qui se met en place. Marie-Louise Chapelle, avec Baudeloc, va mettre sur pied ce qui est devenu le Baudeloc Port-Royal. avec des accouchements répétés, avec des publications avec Baudeloc, ce qui n'était pas rien à l'époque. Et petit à petit, les femmes prennent leur place. Tout petitement, certes, mais elles la prennent. Marie-Anne Victoire Boivin, elle publiera même un traité sur les maladies de l'utérus et des annexes, sous un pseudonyme masculin, parce que sinon la publication aurait été certainement confidentielle, et ce livre est resté pendant longtemps quelque chose d'important. On aurait pu imaginer que la Révolution allait changer les choses, et bien notre bon empereur avait créé certes le concours de l'internat en 1802, donc en l'an 10, par contre, malgré des pétitions de principe tout à fait, on va dire, libérales, il a une petite restriction, c'est certes tout individu qui a les diplômes peut exercer le métier de médecin, mais la femme, elle, c'est un être de second rang, donc elle est mineure et elle est incapable, et elle, si elle n'est pas mariée, d'avoir quelque activité reconnue que ce soit. Donc pas de droit politique, pas de droit civil. C'est le code Napoléon qui nous a régi jusqu'en 1967 en ce qui concerne les femmes. Sans vouloir dire de bêtises, je crois que le chéquier autorisé aux femmes sans la signature de leur mari date de 1967. C'est ça, hein, je ne vais pas dire de bêtises. De temps en temps, au travers de l'histoire, il y a des personnages absolument incroyables, comme Agnodice, Sir James Barry, qui est né aux alentours de 1792, est mort en 1865. Ce monsieur était inspecteur général des hôpitaux de Sa Majesté, il avait été médaillé à Waterloo, il avait été élève d'Astley Cooper à Oxford, et on s'est aperçu que lorsqu'il est mort avec son domestique jamaïcain et son petit chien bien-aimé, cet officier qui avait une réputation d'être dur comme fer et assez peu agréable était en fait une dame, et qu'il était né Margaret Ann Buckley. Et il y a au travers de l'histoire comme ça, pas mal de femmes qui, pour faire de la chirurgie ou pour exercer leur activité, se sont travesties pendant des années, et la supercherie est souvent restée, et a dû pour d'autres certainement, rester totalement inconnue. Et on arrive au XIXe siècle. XIXe siècle, le siècle de tous les changements, le siècle de la compréhension scientifique, le siècle qui nous a ouvert les yeux. Oui, si on veut. Mais Broca, l'immense Broca, quand même, fondateur de la neurochirurgie, c'est un personnage immense, Broca. C'est quelqu'un d'incontournable. Il a eu cette intelligence de changer la vie, mais il a quand même écrit ça, ce qui était assez croquignolé. Donc Broca est un monsieur remarquable et qui, après, a changé. Mais vous trouvez dans la presse, en 1897, c'est-à-dire bien après, des articles commençant par ce genre d'incantation, renoncer à des études répugnantes, certes, pourquoi pas. Et pire, figurez-vous qu'en cherchant, en mettant à jour mes petites notes, j'ai trouvé ça. Ça, c'est d'abord tout à fait détestable, mais quand on regarde Kant, cette phrase qui dit que la chirurgie est faite pour les seigneurs, EI, et pas pour les seigneuses, AI, a été publiée, c'est sur le site des Carabins en décembre 2009. Donc, vous voyez, je crois que la pénétration de la chose, sans aucun vilain jeu de mots, n'est pas encore faite. La grande pionnière en France, c'est Madeleine Bresse. Madeleine Bresse était une veuve avec trois enfants, une jeune veuve, qui a demandé à Victor Duruy de faire médecine. Et on lui a dit, pas question, passez déjà votre baccalauréat. Bon, très bien, deux baccalauréats, passez deux baccalauréats. Elle, pendant la guerre de 1870, elle est interne chez Broca, le même qui disait que le cerveau était de petite taille. Là, elle lui a fait changer d'avis. Et Madame Bresse a certainement été, pour une grande part, pour l'ouverture qui, petit à petit, s'est faite des femmes à la médecine en général, puis à la chirurgie. Moyennant quoi, on l'a autorisée à être médecin, vous ne vous rendez pas compte, il est hors de question qu'elle passe l'externat, l'assistance publique, toujours très ouverte, je suis parisien d'origine, je peux le dire, n'autorise pas une telle innovation. Très bien. Elle passe quand même sa thèse, mais on ne lui autorise pas à s'installer à l'hôpital, à travailler à l'hôpital, et elle doit s'installer en ville alors qu'elle voulait désespérément travailler à l'hôpital. Cette Madame Bresse est restée une espèce de phénomène. On allait l'interviewer encore en 1895, 25 ans après, en lui disant « C'est extraordinaire, vous avez eu votre thèse de médecine, comment vous avez fait, madame ?» Donc c'est resté quelque chose. Les réactions ont été terribles. Et il y a eu des articles de journaux, il y a eu une vindicte qui s'est levée avec des pétitions d'internes, il y a des effigies, il y a eu des internes femmes, mais non françaises, avant Madame Bress, leurs effigies ont été brûlées à l'internat. Enfin, ça a atteint une violence qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il y a des patrons qui les ont défendus, dont Broca, qui avait changé la vie. Il y avait des opposants farouches, dont Denonvilliers. Denonvilliers qui a pourtant apporté pas mal de choses dans la médecine, en tout cas dans l'orthopédie, on va dire, et qui a une phrase merveilleuse qui est de Lucas Championnière, mais qui est du même tonneau, qui est quand même assez redoutable. Et puis, vous avez Charcot. Charcot a hésité. Il a hésité longtemps et vous allez voir, il a fini par changer. Donc il y a des pétitions, ça atteint un véritable conflit. Conflit qui devient politique. Et c'est Poubelle, le préfet Poubelle, qui fait passer un texte pour que les femmes qui ont été admises externes après le combat de Madame Bress puissent prendre part au concours de l'internat. Jusque-là, on disait non, il n'en est pas question. Très bien, puisqu'on a levé un obstacle, on va en mettre un autre. Donc, on déclare à l'assistante publique que le diplôme de docteur en médecine n'est pas valable pour se inscrire au clinica. Donc, chaque fois, on met une barrière de plus. Je passe, parce qu'on pourrait y rester longtemps, il y a des anecdotes toutes plus croustillantes les unes que les autres. Aux alentours du siècle nouveau, il y a 600 bachelières en France, c'est pas énorme, et il y a quelques centaines de femmes médecins quand même, avec une proportion d'étrangères assez importante. En 1928, grand virage, si on peut dire, c'est Madame Bertrand Fontaine qui est reçue à l'internat de Paris, puis au clinica. Madame Bertrand Fontaine, c'est la fille de l'inventeur de la tectonique des plaques, qui était monsieur Bertrand Fontaine. C'est la première femme médecin des hôpitaux en 1930, et puis elle sera la deuxième femme membre de l'Académie de médecine après Marie Curie en 1969. La première chirurgienne déclarée comme telle, dont on retrouve traces partout, mais on ne trouve pas d'images et difficilement des précisions sur la nature de ses activités, c'est une Anglaise qui s'appelait Eleanor Davis Corey, en 1911. 14-18, on pouvait se dire, malgré l'horreur du conflit, ce sera une opportunité pour utiliser les femmes médecins. Mais pas du tout. En France, on met les femmes médecins comme infirmières. On ne veut pas qu'elles soient reconnues comme médecins et qu'elles aient des activités chirurgicales. Sort un petit peu de tout ça, Madame Suzanne Noël, qui est une femme aussi assez extraordinaire, qui a été interne d'hôpitaux de Paris en 1913. Elle a été absolument saisie par le retour de Sarah Bernhardt de Boston. Sarah Bernhardt avait eu un lifting à Boston, et elle s'est dit, mais c'est extraordinaire. Et elle s'est plongée sur le pourquoi, le comment faire ses liftings. Elle a fait pas mal de tort à pas mal de lapins, et puis petit à petit, elle s'est penchée sur les gueules cassées, elle s'est mise à faire de la chirurgie réparatrice. Et on devrait la considérer comme la mère fondatrice de la chirurgie plastique et réparatrice en France aujourd'hui. C'était quelqu'un qui a donné pas mal de sa personne à beaucoup de choses. Elle a fondé aussi un mouvement qui est le Rotary des femmes, qui s'appelait le Sort Optimiste International. C'était une militante. Entre les deux guerres, les femmes rentrent de plus en plus en médecine. Marie Curie est nommée professeure, mais à la mort de monsieur. Elle sera la première femme à l'Académie de médecine, comme je vous le disais tout à l'heure. Et De Gaulle, à Londres, va faire bouger aussi les choses d'une façon assez importante, puisqu'en 1941, il crée le corps des volontaires féminines. Les médecins femmes rentrent dans ce corps. Et il y a une femme, chef d'un service de réanimation d'un hôpital de campagne, ce qui était, alors, pour la France pétainiste, je ne vous dis même pas. Et Madame Brun-Vallon sera première femme chirurgien des hôpitaux à l'Hôtel Dieu, si je ne dis pas de bêtises, en 1945, en ophtalmologie. Plus près de nous, Mme Leca a été la première chirurgienne cardiaque, c'est une élève de Mathé, elle ne sera agrégée qu'en 1979, pas 1800, 1900. La première agrégée femme, c'est Mme Nioul-Fekete, qui était chirurgien viscéraliste à Necker, et la première femme médecin-chef d'un hôpital militaire, c'est Sylvie de Faucompré qui est une chirurgienne viscéraliste. Sa nomination date de 2009. C'est assez récent. On peut dire, ça y est, les portes sont grandes ouvertes. Oui, mais enfin, à l'Académie de chirurgie en 2009, il y avait 377 membres, il y a 9 femmes. Sur les 9 femmes, il y en a 3 titulaires, et je connais 5 des 6 associées. Elles sont là pour faire valoir leur qualité féminine et l'existence de la chirurgie au féminin, ce qui est bien, mais qui ne représente pas encore le quota que l'on pourrait imaginer. Donc l'histoire a nourri c'est nourri et a nourri la position qu'ont d'aucuns aujourd'hui sur la position des femmes dans la chirurgie. Il faut, pour comprendre aussi, éclairer un petit peu la situation d'un point de vue, on pourrait dire, sociologique, sous le regard, j'espère, bienveillant, de quatre grands personnages de la chose. Comme je vous disais au début, l'arrivée des femmes dans le monde du soin, c'est pas nouveau, ça date de tout temps. En France aujourd'hui, 75 à 76% des effectifs de la santé et de l'action sociale, ça veut dire infirmières, personnel infirmier, kinésie, assistante sociale, tout ce qui gravite dans le monde du soin, 75% est déjà féminisé. Donc c'est vraiment, comme disait Lapeyre, c'est plutôt l'accession à un domaine de responsabilité ou de pouvoir qui est en train de changer. Change-t-il vraiment ? Il se trouve que j'ai beaucoup d'amitié pour le personnage de droite qui est Henri Guidicelli, qui est un chirurgien vasculaire, qui est grenoblois, et Jacques Domergue, qui est marseillais et qui est chirurgien digestif. Ils ont fait un rapport qui a fait grand bruit à l'époque sur l'état de la chirurgie en France en 2000 et l'avenir. Et ils ont une phrase qui tue, qui les tue, avec toute l'amitié que je peux leur porter. Ils disent que la féminisation de la chirurgie, c'est un risque. Il est d'autant plus grand qu'il y a plus de femmes, oui, certes. Et puis si on imaginait, Liantre, que les carrières se féminisent, l'orthopédiste femme, vous ne vous rendez pas compte, c'est impossible. Ou alors avec un robot. Le mot robot est lâché comme vraiment la dernière des choses. Eh bien, il ne faut pas trop faire de futurologie en médecine comme ailleurs, parce qu'on peut se tromper. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, la chirurgie va être féminisée. Ça y est, c'est fait, c'est plus la peine de se poser la question. Oui, il y a des robots. Et alors ? Oui, l'orthopédiste de demain sera, comme l'ophtalmo, le gynéco ou le chirurgien de la main, une femme, pratiquement à moitié-moitié. Ces arguments naturalistes, qui sont en fait ceux qui sous-tendent la phrase précédente, sont assez extraordinaires, et je m'attarde un tout petit peu sur ces quelques lignes. J'ai discuté un jour avec un membre très éminent de la Société française d'orthopédie, et qui m'a dit... « Non, mais tu ne te rends pas compte, la femme, pour un patient, parce que je lui vantais l'intérêt de se pencher sur la question, non, mais la femme, elle n'est pas assez forte physiquement, elle ne pourra jamais faire un fémur, le fameux fémur, quand on a dit fémur en orthopédie, on a tout dit. Et puis d'abord, les règles, ça, elles sont fatiguées, elles ne pourront pas, c'est pas possible. Puis de toute façon, une femme, c'est beau, c'est délicat, ça ne peut pas aller dans les vomissures et les déjections. » La seule chose qui ne m'est pas dite, c'est que la nature psychologique de la femme, orgueilleuse, fait qu'elle ne se contentera pas d'un rôle secondaire. Si elle rentre dans le milieu à responsabilité, elle voudra avoir les responsabilités. Ça, il ne l'a pas dit. Par contre, tout ce qui est là, il me l'a dit. Et chose extraordinaire, ça correspond mot à mot, mais mot à mot, vous pouvez aller voir, à l'argumentaire qu'avait fait Charcot à la thèse de Madame Schultz en 1888. Ça veut dire que les arguments naturalistes, ils ont la vie dure. Charcot a petit à petit changé d'avis, enfin quand même. En effet, cette féminisation, elle a deux lectures possibles, d'un point de vue, on est dans le discours sociologique. Elle a une lecture qu'on peut dire universaliste, qui consiste à dire, il y a des femmes, d'accord, mais enfin, il y a aussi les innovations techniques, il y a les dépenses publiques, c'est aussi un problème, et puis de toute façon, il faut maintenir le niveau de vie des médecins, hommes ou femmes, c'est pareil. C'est pas forcément pareil. Et puis l'autre argument, ça consiste à dire, oui, de toute façon, les femmes, elles vont faire comme les hommes, c'est un métier d'homme, donc elles vont devenir des hommes. C'est un peu court. Deuxième lecture possible, c'est la lecture essentialiste. C'est de dire, la féminisation, c'est un élément fondamental dans le nouveau métier de chirurgien, ça va faire changer l'éthos du chirurgien, le comportement du chirurgien, c'est un enjeu majeur, et c'est une donnée qui structure la profession. Et ceux qui ont compris ça sont aussi hostiles, parce qu'ils se disent, oui, mais si ce sont des femmes qui viennent, elles ne vont plus vouloir avoir une reconnaissance matérielle de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, elles vont vouloir avoir une reconnaissance temporelle, pouvoir organiser leur vie. Donc il va y avoir une dévalorisation monétaire du métier de chirurgien. Eh bien, figurez-vous que ce raisonnement-là, on l'entend. On l'entend tellement que des syndicats médicaux se sont un petit peu, on va dire, énervés devant la féminisation grandissante du corps médical. Ce qui est quand même assez, on va dire, étonnant. Alors, un nouvel éthos pour le chirurgien ? Absolument. Les femmes vont faire bouger et font bouger les lignes. Il y a une autre façon de faire, certes, dans le métier chirurgical, machisé à outrance depuis des lustres. Elles ont été obligées de masculiniser un peu leur comportement, mais ce n'est pas pour autant qu'elles l'ont machisé. Elles font évoluer l'éthos de façon très nette. Et dans le public, c'est amusant de voir deux enquêtes parallèles qui ont été faites en 1974 et en 1999, donc 25 ans après. 25 ans après, 83% des gens, c'est du tout venant, interrogés, feriez-vous confiance à une femme chirurgien par rapport à un homme chirurgien? En 1974, 43% des gens disaient oui, 43%. En 99, 83% disaient oui. Donc c'est vraiment rentré plus dans le public que ça n'est rentré dans les institutions. Il y a aujourd'hui 4000 et quelques PUPH. Le taux d'agrégés, donc de PUPH dans les hôpitaux universitaires français, je crois, est de 12%. Excessivement difficile à avoir comme chiffre. Allez savoir pourquoi. En 2005, c'était 9%. Donc ça augmente, mais ça augmente doucement. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que la femme fait changer dans l'éthos du chirurgien? Il y a deux grandes choses que je vous ai ébouchées un petit peu. Un, c'est la disponibilité. C'est vrai que la femme, beaucoup plus matérialiste au sens noble de la chose, mais beaucoup plus proche de la matière, va dire c'est un métier, c'est pas un sacerdoce. Je ne veux pas d'un sacerdoce. Je me donne à mon travail avec intensité, mais j'oppose l'intensité au chronométrique. Vous avez tous connu, pour ceux qui ont fait médecine, des patrons dont la plus grande gloire était d'être là à 6h30 le matin, moi par exemple, et de partir le dernier, fermer la porte à clé, ainsi de suite. C'était du chronométrique pur. On ne savait pas ce qu'ils faisaient dans leur bureau. Ils lisaient peut-être Le Monde où ils écrivaient leur mémoire, ou ils préparaient un truc pour Sciences Po, allez savoir. Mais cette idée du temps passé, c'était une valeur. Là, c'est plus ça. C'est qu'est-ce qu'on consacre aux gens en intensité plus que sur la durée. Mais ça a un revers, cette médaille a un revers, c'est que les gens aimaient bien cette notion de disponibilité absolue du chirurgien qu'on pouvait joindre, qui diminue, ça c'est clair. Et puis l'autre grande donnée dans l'éthos, dans le comportement du chirurgien, femme, mais la société se féminise, comme disent les sociologues, de façon importante, c'est la redistribution du temps, la recherche de temps partiel. On ne va pas prendre 100% de son temps pour son activité, on va fractionné plus ou moins. Avec la loi qui prête le flanc à un truc extraordinaire, c'est le compte épargne-temps. Je dépasse mon temps, j'ai un compte épargne-temps. Il faut que vous sachiez quand même qu'en 2007, c'est l'année où j'étais à Sciences Po pour faire cette histoire-là, le compte épargne-temps représentait 16 siècles, vous entendez bien, 16 siècles d'un emploi temps plein. Donc, si vous voulez rembourser le compte épargne-temps aujourd'hui, il va falloir trouver des gens pour compenser les places laissées vides. On ne les a pas, ces gens. Alors, on va le monétariser, mais il va falloir trouver l'argent pour payer ce temps plein. Enfin, ce temps non rempli, excusez-moi, c'est exactement l'inverse. Donc, ça pose des problèmes. Et puis, enfin, la partialisation du temps, ça peut poser des problèmes aussi de légitimité dans une équipe. Si vous avez une équipe chirurgicale, même chirurgicale, on fait de la recherche quand même, accessoirement en chirurgie, et vous avez des programmes qui avancent et qui sont un peu pointus, quelqu'un qui va s'absenter 6 mois pour convenance personnelle, on va y revenir, et qui revient 6 mois après, c'est vrai qu'il fait ça une fois, il fait ça deux fois, dans une équipe un peu dynamique ou un petit peu pointue, ça peut parfois poser des problèmes. Et puis il y a un problème de financement, on l'a évoqué sur le CET, et puis il y a un autre problème de financement beaucoup plus, alors basique, qu'on reverra tout à l'heure. Parce qu'il est vrai que les femmes préfèrent, dans ce contexte sociétal, limiter la durée hebdomadaire, elles ne veulent plus être l'esclave de leur métier, elles ont d'autres choses à faire, c'est absolument recevable, et elles veulent préserver leur vie personnelle. Mais franchement, si on est honnête, vous ne croyez pas que c'est un peu le sens de toute l'évolution sociétale depuis 10 ans? Les hommes aussi. Alors ils ne vont pas forcément chercher les enfants à l'école, ils vont faire d'autres choses, et encore je reste très poli, mais la demande de temps libre, elle augmente, la fragmentation du temps, elle augmente. Et dans le petit bouquin dont je vous ai parlé, j'ai fait une enquête un petit peu plus fournie que ce que je vous raconte sur les femmes chirurgiens, ce qu'elles pensaient de la façon dont elles étaient à la place où elles étaient. Il y a du PUPH et des PH. Et puis, les femmes soignantes, autrement dit, les infirmières de bloc et les surveillantes de bloc. Majoritairement, les réponses sont, de toute façon, c'est dur, j'en ai bavé, j'ai fait comme les autres, et puis je suis arrivé où je voulais, mais je ne sacrifierai pas tout. Je sacrifierai un peu, mais pas tout. Et puis, vous avez une part des femmes qui ont été, ces femmes sont PUPH, elles sont agrégées, donc c'est des femmes qui, sans avoir mon âge canonique, sont quand même un certain âge dans la pratique, elles ont eu un parcours souvent très difficile, avec des oppositions importantes. Et malgré ça, il y en a qui tiennent un discours qui est plus machiste qu'un chirurgien machiste n'oserait tenir. Et il y en a qui vous disent, oui, de toute façon, le monde féminin, c'est encore pire que le monde masculin. Moi, je préfère être avec des mecs. C'est dit comme ça. Chose intéressante aussi, les femmes soignantes, les surveillantes, les infirmières de bloc ont un discours très, très intéressant. Je résume ça, la phrase est tirée in extenso de l'enquête, mais elle y a tout dedans. Pour elles, les femmes sont plus dures que ne sont les hommes, elles sont plus exigeantes avec les étudiants, elles leur en font plus baver, elles les vérifient plus et elles les mettent plus à l'épreuve. Et il ne faut pas oublier qu'elles ont aussi, ces femmes chirurgiens, à faire leur place vis-à-vis des hommes chirurgiens qui les regardaient arriver un peu en poussant le nez, mais aussi dans un monde qui est féminisé à outrance. Femmes parmi les femmes, elles ont aussi une place de femme à tenir, mais une femme de pouvoir face à des femmes qui vont être leurs subordonnées. Ce qui n'est pas toujours simple dans des relations, et c'est vrai qu'il y a certaines équipes où la femme chirurgien est obligée de devenir un vrai dragon pour se respecter. Et il est vrai, et ceux qui sont chefs de maison parmi vous doivent le savoir, quand vous avez commencé externe dans un service et qu'il y a l'aide-soignante qui vous a vu arriver externe, puis interne, puis chef, machin, vous la tutoyez depuis 30 ans. C'est pas toujours évident qu'elle comprenne qu'on se tutoie, qu'on s'aime bien, qu'on se fait la bise le matin, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un chef et quelqu'un qui doit obéir. Et là, la femme se heurte à ça, et ça fait même des femmes, et j'en ai l'exemple chez moi, d'une femme qui est PH maintenant, qui est un chirurgien exceptionnel, à qui je voulais remettre les clés de la maison, et qui, pour des raisons qui s'approchent de ça, ne veut pas. C'est-à-dire qu'elle dit, moi je suis incapable de gérer une équipe de femmes, j'ai pas cette force-là, et je ne concourrai pas. Donc elle concourt pas à l'agrégation, pas parce qu'elle s'en sent incapable intellectuellement, mais parce qu'elle pense qu'elle n'aura pas la puissance, la force de caractère de gérer une équipe. C'est pas complètement neutre, et ça fait changer les choses. Donc globalement, sociétalement et sociologiquement, il faut comprendre que la femme qui arrive, elle modifie l'éthos du chirurgien, mais la praxis évolue. Je vous ai mis le robot parce que c'est un clin d'œil, mais il n'y a pas que les robots. Tout évolue, la médecine ambulatoire, c'est une révolution en France. L'objectif de la médecine, de la chirurgie ambulatoire, c'est 80% de la chirurgie en ambulatoire à l'horizon 2025. Aujourd'hui, en CHU, il y en a 15%. Ça dépend des CHU, enfin, pour être méchant. Donc, la féminisation, ça va bien au-delà d'un effet de nombre, et il ne faut pas oublier que les hommes féminisent plus leur comportement que les femmes ne masculinisent le leur. Les temps partiels en sont un exemple. Ceci est vrai, je vous parle de la forteresse des CHU, mais c'est vrai aussi pour le public comme pour le privé. Les femmes dans le privé vont aussi ne plus être en activité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elles vont faire aussi du temps partiel. Donc, l'offre de soins va s'en trouver forcément modifiée. C'est vrai pour la France et pour tous les pays européens de structure ou de niveau à peu près comparable, en Allemagne, en Italie, en Espagne, les problèmes sont absolument les mêmes. Troisième lecture ou troisième éclairage, question qu'il faut se poser, c'est, il y a une réponse politique ? Est-ce qu'il peut y avoir une réponse politique à ça ? Alors, la première des choses vis-à-vis de ce genre de problème, c'est de souhaiter, c'est un vœu pieux, mais enfin on peut quand même le faire, c'est de ne plus subir les oscillations permanentes des politiques. Je ne prends absolument pas de gauche, de droite, du milieu, du dessus, du dessous, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça. C'est la politique de l'événement, c'est redoutable. Vous avez un été un peu chaud où vous avez beaucoup de vieillards qui décèdent, c'est déplorable. On se dit, oulala, canicule, il faut créer des postes de gériatres. Où je prends mes gériatres ? Je vais les prendre chez les psychiatres. Un an après, un schizophrène pas très bien équilibré fait une grosse bêtise dans un centre du sud de la France. On se dit, oulala, mais il n'y a pas assez de psychiatres. Je vais rajouter des psychiatres. Où je les prends ? Chez médecine interne. Et puis arrive cette idée absolument somptueuse, très noble et absolument fondamentale, de l'éducation du patient. Il faut éduquer les patients, et c'est certainement la prévention qui fera faire les plus grosses économies, pour parler financièrement parlant, à la sécurité sociale, à l'assurance maladie. Si les gens se traitent mieux, vous savez quand même qu'il y a pratiquement un quart des diabétiques qui sont complètement hors traitement, qui ne suivent pas leur traitement. c'est sidérant. Les hypertendus, c'est un chiffre à peu près équivalent. Ça veut dire réhospitalisation, pathologie aggravée, tout ce que vous voulez. Il va bien falloir trouver, on les a plus. Les médecins, pour faire cette formation, cette éducation, on va les reprendre chez qui ? Vraisemblablement chez les gériatres ou chez les psychiatres. Donc on va comme ça aller d'un bord à l'autre et ça va ne pas s'arrêter. Donc il faut vraiment essayer d'avoir une tenue. Quels sont les problèmes posés aux politiques ? En fait, c'est un problème. C'est un problème de... c'est la santé publique. Alors mon maître Tabuteau serait dans ses œuvres. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce terme santé publique ? Dans ce terme santé publique, il y a deux choses. Il y a une obligation morale, éthique, c'est la continuité des soins. Il ne doit pas y avoir de rupture de la chaîne de soins, c'est pas logique. Et puis, il y a une obligation constitutionnelle, j'allais dire, qui est l'accès égalitaire aux soins. Et là, on commence à rentrer dans des périodes où ça devient discutable. Grosso modo, la densité médicale pour 100 000 habitants en France va de 409 en PACA, on se demande pourquoi, à 250 en Picardie. Vous avez le choix. Or, cette densité a diminué à peu près de 10 pour 100 000 habitants entre 2008 et 2009. Ça, c'est lié à deux types de problèmes. Il y a des problèmes conjoncturels et il y a des problèmes structurels. Les problèmes conjoncturels, c'est des problèmes d'effectifs et des problèmes de vieillissement de la population chirurgicale ou médicale, s'entend. Et les problèmes structuraux, j'ai osé faire un acronyme, on va dire, médiatique, qui est PPDA, qu'on va voir tout à l'heure. Les problèmes conjoncturels, Louis XIV, en 1661, c'est l'année de la mort de Mazarin, mais ça sent son Mazarin à plein nez, si je peux me permettre, dit « Tout l'art de la politique, c'est de servir les conjonctures ». Effectivement, il y a des outils conjoncturels. Il y en a trois gros, si on peut dire. Il y a le numerus clausus, l'examen classant national et l'installation. Le numerus clausus, il a été au plus bas parce qu'il est descendu à 3600 vers les années 90, 11, 12. Petit à petit, il a remonté pour atteindre 7004 l'année dernière et le Conseil de l'Ordre des médecins voudrait 8000 par an pendant 10 ans pour grosso modo créer 10 000 médecins supplémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui pour réatteindre en 2025 la densité médicale que l'on connaissait en 1988, 9, 10, qui nous amène à 300 à peu près pour 100 000 habitants, qui est la moyenne des pays européens qui va de 297 à 305. Le problème de ce numerus clausus, c'est que c'est un outil excessivement peu adaptable, peu souple par nature. Vous changez un nombre de postes, les conséquences, c'est 10, et pour la chirurgie, 14 ans après. Vous imaginez, la lisibilité est relativement modeste. En plus, il y a des effets pervers. En 2007, 200 postes de plus, puisqu'on est passé à ce moment-là de 7000 à 7002, puis de 7002 à 7004, en 10 ans, il y aura plus de reçus, parce que quand même, un examen où il y a 18% de reçus, ça fait pas beaucoup. Très bien. 200 postes de plus, 1400 candidats de plus. Donc, 1200 collés de plus. Ça a fait re-réfléchir. D'autant qu'il y a une attractivité des CHU en fonction de ce numerus clausus. Donc c'est une variable d'ajustement qui garantit ni la continuité des soins, qui est absolument pas souple, ça régule absolument pas le problème territorial, on voit pas comment, et en plus l'histoire de sexe augmente encore si on considère que ça ne doit pas l'être, ou favorise encore, si on considère la chose de l'autre côté, la féminisation de la profession. Qui plus est, les gens ne vont pas n'importe où. Ce que je racontais tout à l'heure en aparté, l'attractivité homme ou femme est exactement identique pour les CHU. Elle est basée, non pas par sexe, spécialité ou quoi que ce soit, elle est basée sur l'avenir possible. Autrement dit, ils vont choisir les candidats, les 5 CHU qui ont le meilleur classement à l'examen classant. Vous voulez être chirurgien, vous voulez pouvoir faire de la chirurgie, vous allez dans un CHU, vous savez que vous serez formé de façon à être bien classé à l'examen classant, comme ça vous pourrez avoir votre chirurgie. L'ordre, les nommés sont, donc Paris 5, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris 6, Grenoble et Lyon. Dans les 5 premiers, et ça depuis 4-5 ans, ça ne change pas, c'est encore vrai l'année dernière. Et quand on regarde en face ce que ça donne en échec en première année, et bien on s'aperçoit que plus le CHU est bon, plus il est attractif, évidemment, plus il y a de collés en première année. Donc sur les 38, le plus mauvais, c'est Grenoble, où pour être rentré à Grenoble, ben vous avez 11% de chance, grosso modo, ou 12% de chance, comme à Toulouse, de rentrer. Si vous allez à Amiens, vous aurez plus de chance, c'est évident. Mais les 5 premiers sont vraiment dans les derniers des possibilités d'accès, donc il y a déjà une projection, et c'est ça qui est intéressant, il y a déjà une projection de l'avenir dans la carrière des gens qui commencent leur médecine, qui ne l'ont même pas encore commencé. Donc, numerus clausus, pas très efficace. Deuxième outil, l'examen classant national. On va se dire, formidable, je vais jouer là-dessus. Mais on joue sur rien du tout. C'est au prorata de la qualité des copies, j'allais dire, que les gens se répartissent sur les spécialités. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 40% de postes chirurgicaux pris par des femmes en 2008, c'est pas en jouant sur l'examen classant, sauf à le biaiser, ou à faire une courbe de Gauss un peu tripotée, comme ça s'est fait il y a des années dans d'autres circonstances, on n'y arrivera pas. Troisième chose, alors là, c'est jouer sur l'installation. Octobre 2007 ou 2008, c'est la dernière grande grève des internes dans la rue Boulevard Saint-Germain, c'était pour l'installation. L'installation est considérée comme un droit intouchable du médecin et de la médecine libérale. C'est quelque chose, c'est vraiment tabou. Donc jouer sur l'installation, c'est très difficile. Et si on regarde pourtant comment c'est projeté, si on regarde les projections à 2025, on s'aperçoit que le nombre de femmes qui cherchent à s'installer à l'hôpital, entre guillemets, donc qui cherchent une position salariée, va augmenter de façon très forte. Alors que la proportion des hommes qui vont chercher la position, on va dire, salariée, risque de diminuer. On pourra se dire, il y a peut-être quelque chose à faire, on peut peut-être jouer là-dessus. Mais sujet excessivement dangereux et difficile. Alors que pendant ce temps-là, pour la chirurgie, il y a une véritable carence. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 22% des postes de chirurgie dans les hôpitaux généraux sont vacants. Ils sont vacants pour des tas de raisons. La première est sans doute financière. À travail égal, vous gagnerez 3,50 € en Allemagne et 1 € en Suède. En France, vous serez à 1,5 € ou 1,6 €, quelque chose comme ça. Donc il y a déjà, avec l'ouverture Schengen aidant, vous pouvez aller vous installer où vous voulez. La France est relativement attractive pour les francophones. Il est vrai qu'il y a peu de francophones qui vont s'installer en Suède, d'abord parce que c'est financièrement peu intéressant, et que leur suédois n'est généralement pas au niveau. Il y a un problème d'obstacle de langue, évidemment. Donc il y a ce problème. La liberté d'installation, pourtant le Conseil de l'Ordre des médecins le disait déjà en 2003, il a beau le dire, apparemment les choses ne bougent pas du tout, c'est pas encore la vraie, c'est plus la question. Il faut jouer dessus, sinon il n'y a aucun moyen d'y arriver. Comment on peut jouer dessus? Notamment pour la population féminine, mais pas seulement, il faut augmenter l'attractivité des lieux d'exercice. Et les lieux défavorisés, quand il n'y a pas d'école, pas de crèche, pas de transport en commun, vous n'aurez pas de femme chirurgien qui ira s'installer dans l'hôpital en question. Ça, c'est absolument clair. Mais vous n'aurez vraisemblablement pas beaucoup d'hommes non plus. Et puis, il y a ce problème des PH étrangers. Ces postes non pourvus vont l'être par des gens qui ont parfois un français hésitant, c'est pas grave, mais parfois une formation sur laquelle on peut hésiter. Ça, c'est plus grave. Donc il y a un vrai problème de postes non pourvus, alors que pendant ce temps-là, on colle 85, 86, 90% des étudiants à l'entrée en médecine. On peut se poser les questions. L'afflux des étrangers en France, des médecins étrangers, ne sont pas tous des sous-qualifiés. Il ne faut surtout pas dire ça. Et vous avez des quotas de gens qui viennent, et qui venaient surtout de Belgique, d'Allemagne et d'Algérie, avec maintenant une arrivée massive de Roumains. Ces médecins roumains sont majoritairement des femmes, 70%, ils sont majoritairement spécialisés et ils sont majoritairement bons, voire très bons. C'est des gens bien formés, qui parlent généralement fort bien le français, qui sont plutôt plus cultivés que l'externe moyen, je peux vous le dire, et c'est des gens qui ont tout à fait, dans l'Europe d'aujourd'hui, leur place et qui la prennent, et ils ont entièrement raison. Et certains PUPH se courroucent de ça, et disent, la question c'est plus homme-femme, la question c'est, il faudrait mettre des Français sur les postes français. Je ne donnerai pas mon avis profond sur les choses, mais ça peut se discuter. Or ça, c'est une professeure de chirurgie femme qui vous dit ça de façon très très carrée, en disant que ça ne va pas, il faut absolument changer le tir. Alors, quelles sont les variables d'ajustement? Des quotas, difficile. Une régulation sexuée des emplois, c'est quand même difficilement acceptable. C'est insoutenable d'un point de vue intellectuel, c'est complètement discriminatoire. Et puis, vous avez ce truc extraordinaire, vous savez que nous sommes dans un merveilleux pays qui a quand même mis le principe de préconscience dans la Constitution, ce qui pour un chirurgien est quand même un petit peu gênant, mais ça nous entraînerait sur d'autres chemins plus dangereux. Mais surtout, a décidé que le 9 octobre 2008 à 14h26, ce serait la parité dans toutes les professions. Il y a eu un texte qui était prévu comme ça, de déclarer la parité obligatoire. Vous imaginez ça? Ça ne veut strictement rien dire. Vous n'allez pas trouver le moyen de faire la parité. Et si parité il y a, il faut que ça soit dans les deux sens. Je ne suis pas certain que vous trouviez facilement des ASH mâles pour faire une parité d'ASH dans les couloirs des hôpitaux publics. Donc, il faut arrêter avec cette histoire de parité absolue, ça n'a aucun sens. Les quotas, certains les voudraient, ces quotas. Il y a même des femmes qui le déclarent en disant, il faudrait, et j'ai dans les interviews, c'est extraordinaire, des femmes chirurgiens chefs de service qui veulent interdire un trop grand pourcentage de femmes dans leur service de chirurgie, hein, et qui veulent des quotas sexués, quand même assez fort. Donc, il faut une régulation, certainement. La régulation, elle doit être, alors c'est un vœu pieux, intelligente et prospective. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Ce qui veut dire que, grosso modo, être un chef d'équipe, on devient presque chasseur de tête maintenant. Où il faut avoir la bonne personne au bon endroit, sachant un peu le profil et sociologique, et humain, et professionnel de la carrière qu'elle envisage d'avoir pour que tout fonctionne à peu près bien. Ce n'est pas forcément très facile. Ça, c'était les problèmes, on va dire, structurels. Et puis, il y a les problèmes conjoncturels. Il y a les problèmes structuraux. Donc, j'ai fait cet acronyme médiatique. Pour les femmes, on peut dire qu'il y a 4 problèmes structuraux. Il y a la pénibilité. Cette pénibilité, elle peut être chronométrique ou physiologique, c'est-à-dire des astreintes longues et lourdes, répétées. Ça peut, pour certains qui soutiennent les arguments naturalistes, être un obstacle. Et puis, il y a la pénibilité technique, physique. Ça, on revient toujours à mon fémur de l'orthopédiste. Deuxième problème structural, c'est la précarité. Cette précarité, c'est un terme que je déteste, mais c'est le terme reconnu sociologiquement, la précarité du travail féminin. Précaire, je ne sais pas s'il est très précaire. Il est peut-être irrégulier, mais il n'est pas précaire en soi. Mais on va garder le mot précarité. Cette précarité, elle peut être horaire ou elle peut être séquentielle. Horaire, ça veut dire « je vais vouloir un temps partiel ». Séquentiel, ça veut dire je vais avoir une carrière discontinue. Je vais m'arrêter un peu, beaucoup, et surtout, je vais m'arrêter plus tôt. Ça, c'est fréquent. Il y a le troisième problème structural, c'est le déséquilibre territorial que tous les facteurs qu'on vient d'énoncer, les uns après les autres, historiques y compris, engendrent. Et puis enfin, le dernier problème, c'est une anticipation politique, et elle n'est pas qu'économique au sens financier, elle est aussi législative, on va y revenir. Donc la pénibilité chronométrique, c'est-à-dire des horaires longs, difficiles, c'est grosso modo toutes les spécialités à garde lourde. C'est la gynéco-obstétrique, ah bah tiens, c'est féminisé à outrance, et depuis longtemps. Donc c'est pas un obstacle, faut pas dire n'importe quoi. Qui plus est, pour les spécialités astreintes, fréquentes, lourdes, tout ce qui est traumatologie, la chirurgie de la main, les réimplantations, les transplantations, tout ce que vous pouvez imaginer... Oui, bon, très bien. Si on ressent les plateaux techniques et qu'on fait des équipes plus étoffées, le problème s'efface. Et ça, c'est la piste majeure. Et pour l'instant, on n'en voit pas vraiment d'autres. La pénibilité technique, on prend l'orthopédie comme exemple, ça pourrait être autre chose. C'est des arguments naturalistes complètement obsolètes. On peut faire de l'orthopédie sans être un rugbyman d'1m90 à 120 kg. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, les évolutions des techniques, la robotisation certes, mais pas seulement, et on appelle souvent robots des choses qui ne le sont pas, hein. C'est des aides opératoires, c'est des facilitateurs, ce ne sont pas des robots au sens strict. Donc ces arguments tombent. La précarité du travail féminin. Alors la précarité horaire, c'est vrai que l'idéal des femmes interrogées en général, c'est faire à 80%. 80% c'est le mot magique, c'est le temps partiel idéal souvent. Mais les hommes aussi, et ils sont de plus en plus à le demander. Pour que la continuité des soins soit assurée, il n'y a pas de grande autre solution que de recentrer les placotechniques et d'avoir des équipes étoffées. vous avez vu les réactions à cette proposition de recentrage des plateaux techniques, qui s'est gentiment appelé on ferme certains hôpitaux. Il y a 1000 hôpitaux en France, grosso modo aujourd'hui, il y en a 100 qui font moins de 100 interventions par an. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes d'équipement, d'anesthésistes, de chirurgiens bloqués sur place? C'est indécent. Donc ces gens devraient être reventilés de façon un peu plus intelligente. C'est appelé depuis des années, Domergue et Guidicelli dans le rapport de 2003 le voulaient déjà, c'est vous dire. Deuxième précarité chez la femme, plus importante et plus significative, parce que vraiment plus spécifique, c'est l'arrêt. L'arrêt, grosso modo, une femme s'arrête 10 fois plus qu'un homme dans une carrière. Et dans une année, elle s'arrête 10,2 fois, enfin bref. Pour des causes de maternité, dans l'immense majorité des cas, bien sûr. Et ça, c'est plus difficile à gérer, elle s'arrête plus tôt. En général, elle s'arrête 2 à 3 ans plus tôt dans sa carrière que ne s'arrêtera un homme. Ça, c'est incontournable, mais c'est minimisé en chirurgie. Je ne dis pas tout que Rachida Dati était une agrégée de chirurgie, je dis que beaucoup de femmes chirurgiens ont des arrêts de maternité qui ne sont pas exactement de la même durée que le commun des mortels. Elles s'arrêtent moins, elles reviennent plus vite, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire forcément comme ça, mais il ne faut pas non plus en faire une donnée incontournable et maximaliste. Elle s'arrêtera et les femmes s'arrêteront tant qu'elles auront envie de faire des enfants, et ce serait plutôt intéressant pour l'espèce que ça continue. Donc il y aura des arrêts pour grossesse et maternité, c'est normal. Là encore, le moyen pour que la continuité des soins soit assurée, c'est le recentrage des plateaux techniques. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Il est beaucoup plus facile d'absorber 80% quand vous êtes une équipe de 6 que quand vous êtes 3, c'est absolument évident. Le déséquilibre territorial, là aussi, grande tarte à la crème. C'est vrai que les femmes préfèrent le salariat, c'est vrai qu'elles préfèrent les grosses structures, clinique, hôpital ou cabinet de groupe. C'est vrai que pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, de transport, de crèche, de disponibilité de moyens, elles préfèrent les grandes villes aux petites, et les temps partiels. Aujourd'hui, grosso modo, les temps partiels, 25% des femmes sont à temps partiel, et 2 à 3% des hommes. Vous avez vu que pour l'installation, on a déjà évoqué. Et puis, il y a un phénomène relativement récent et très très important, c'est le phénomène du remplacement. Et il y a 22% des nouveaux inscrits au Conseil de l'Ordre, et pas seulement des médicaux, hein, des chirurgicaux aussi, qui se mettent en remplacement. La parité se fait petit à petit là aussi, et aujourd'hui, c'est pratiquement du 50-50. Grosso modo, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui sont en remplacement, un peu plus de femmes, mais pas de façon très importante. Ça représente quand même 10 000 remplaçants en France aujourd'hui, enfin en 2008. C'est 5% des inscrits. Et ces remplaçants, ils remplacent qui? Ben, ceux qui étaient dans les grosses structures ou ceux qui sont dans les grandes villes. Et pendant ce temps-là, ils ne vont pas s'installer dans les zones dites défavorisées. Alors je n'emploie et à dessein volontairement pas le mot de désert médical. Je suis désolé, vous parlez de désert médical à un Canadien, il éclate de rire. C'est vrai, c'est logique. Il n'y a pas un endroit en France qui soit à plus d'une heure d'un hôpital public. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut un petit peu pondérer les choses. Donc, ce déséquilibre territorial, il est lié effectivement au tropisme féminin pour les grosses structures, les grandes villes, et ainsi de suite. C'est pas nouveau. Il y a un papier dans la Gazette médicale de 1886 qui se lamente sur la France coupée en deux entre la France bien dotée en médecins, qui est la France du Sud et la région parisienne, et la France du Nord, qui est dépeuplée de médecins. C'est pratiquement les mêmes termes que le courrier du médecin ou le quotidien du médecin de 1995. Comme quoi, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais le problème reste le même. Donc il y a, c'est vrai, des disparités régionales très importantes, mais qui ne sont pas forcément liées aux femmes. Les hommes aussi. En Lozère, il y a 34 spécialistes pour 100 000 habitants. Il y en a 244 pour 100 000 à Paris. Cherchez l'erreur. Et ça, ça n'a rien de connotation sexuée ou pas, c'est absolument clair. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en Ile-de-France, vous avez 26% de la population médicale qui est féminine, alors qu'en Corse, vous en avez 0,35%. Je ne ferai pas de commentaire là non plus. Donc, ce déséquilibre territorial, il peut être pallié par le recentrage des équipes. Grosse disponibilité dans de gros centres qui sont géographiquement bien situés, ça paraît être quand même relativement logique et compréhensible. On peut y mettre des tas de d'amodiations, et je suis bien placé pour le savoir. Nous, on est dans une région, vous mettez pour aller, vous avez peut-être entendu parler de la maternité de Lamure qui a fait la une de certains quotidiens médicaux il y a quelques années. Lamure, du CHU de Grenoble, ça met entre 25 minutes et 3h30. Si vous êtes en hiver avec une route complètement enneigée dans une descente célèbre qui s'appelle la descente de l'Afrique, excessivement dangereuse et très raide, ça peut effectivement prendre un temps supplémentaire. Donc il y a quelques régions comme ça où on peut avancer des arguments contre le recentrage. Mais dans la Beauce-Labry, trois hôpitaux à 52 km 25 de distance les uns des autres, ça peut quand même se discuter. Enfin, autre problème structurel important, c'est l'anticipation politique. L'anticipation, elle doit être économique. Et il faut réaliser qu'un temps partiel coûte à l'institution qui le donne 90% d'un temps plein. Imaginez qu'il y ait 5000 PH, praticiens hospitaliers, qui veulent 80%, ça vous fait la création effective de 500 postes temps plein pour compenser les 10% manquants. C'est financièrement quelque chose qu'il faut abonder, sinon vous n'aurez pas les gens. Donc, important d'anticiper d'un point de vue économique, mais aussi l'économie, il faut aller jusqu'au bout. Il y a un gain de productivité dans des équipes recentrées avec des temps partiels par rapport à des équipes squelettiques quand les gens veulent prendre leur récupération, leur RTT. Donc, recentrage du plateau technique. Je ne suis pas monomaniaque sur le recentrage du plateau technique, mais après avoir pas mal cherché, on ne voit pas vraiment d'autres pistes faisables, rapidement faisables et efficaces et efficientes pour reprendre les termes habituels. L'anticipation politique législative. Ça, alors, c'est appelé des vœux de pas mal de gens. Il faut que la politique en matière de santé, elle soit claire, il faut qu'elle soit affichée, et puis surtout, il faut qu'elle soit planifiée au-delà d'un an et demi. Parce que franchement, sur des cursus qui durent 12, 13, 14 ans, voir ce que je vous ai dit sur le numerus clausus, c'est un petit peu insuffisant de se satisfaire d'une réformette qui, d'ailleurs, généralement, ne va pas jusqu'au bout. Tous les 3 mois, tous les 6 ans, ça ne suffit pas, il faut un plan. Et moi, je plaide, alors, un peu dans le désert, pour un système à l'allemande qui consisterait à ce que le Parlement élise de façon conjointe, opposition et majorité confondues, un ministre des Affaires sociales et de la Santé pour une durée d'un mandat long, on va dire, 7 ans, 6 ou 8, peu importe, et qui serait en quelque sorte un peu au-dessus du débat politicien du moment. On peut rêver, mais pourquoi pas. L'adaptation législative, le numerus clausus, ça passe par la loi. On a vu que le numerus clausus, c'est aréactif, c'est très non malléable, non maniable. L'installation, je vous ai dit que c'était un sujet hypersensible. Il y a eu des tentatives, il y a eu des aides à l'incitation à l'installation. En 2007, combien croyez-vous que de médecins ont été demandés et profité de cette aide à l'installation qui était financièrement non nulle? 2. 1 plus 1, c'est pas beaucoup. Donc l'installation reste vraiment un sujet excessivement difficile à gérer. Et quelque part, il faudra passer par l'injonction. Je ne vois pas très bien comment faire autrement. Alors, c'est toujours difficile avec les médecins, mais quand même. Il n'empêche que tout ça met le corps médical et chirurgical particulièrement, parce qu'on a des égos peut-être un peu plus distendus que les médecins, dans une situation un petit peu mal à l'aise. Et Tabuto avait organisé en décembre dernier un colloque dont j'avais vraiment, que j'ai participé, j'étais très content et très fier aussi, qu'il avait intitulé le tourbillon des réformes. Et j'ai trouvé ce titre absolument magnifique, parce que dans tourbillon, tout de suite vous pensez à tourmente météorologique. Tourmente, ça induit dépression, et c'est vrai qu'il y a une forme de dépression plus ou moins latente et larvée. C'est plus du burn-out, on en a marre, c'est on ne sait pas où on va, puis de toute façon l'hôpital public il est fichu, et de toute façon il n'y a plus d'argent, et puis de toute façon le système il est cuit, vous entendez ça à longueur de journée. C'est complètement délétère, ça n'a jamais fait avancer qui que ce soit, et c'est presque la dépression auto-entretenue. Mais cette comparaison météorologique, elle a encore un avantage, c'est que derrière météorologie, il y a prévision. Et ces prévisions de notre système de santé et de l'avenir de la chirurgie au travers de leur féminisation, c'est un aiguillon fantastique pour se reposer des questions, pour voir comment on peut tout restructurer. Je ne suis pas physicien, on en parlait tout à l'heure pour le théorème de Gödel, mais je trouve qu'il faudrait peut-être un peu voir les choses comme on parle de la théorie du chaos. La cohérence d'un système, elle existe, elle est prouvée, elle est efficace, très bien. Quand on va vouloir marier plusieurs systèmes pour en faire un système conjoint, c'est pas l'addition de la cohérence des trois systèmes va pas forcément vous donner un système cohérent. Et c'est ça qu'il faut entendre, et c'est pour ça, et je reviens à mon histoire des logos différents, il faut vraiment se pencher avec des discours et des analyses et des visions différentes du phénomène de la féminisation, de la chirurgie, et ce qu'elle induit et ce qu'elle va induire. Je crois que si on veut sortir un petit peu de l'ornière, il faut vraiment avoir ces lectures diverses et se dire qu'il y a un système à recréer, à réinventer, mais pas rester figé sur son truc en disant, comme on entend très souvent dans notre beau métier, ça fait 30 ans que je fais comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais. C'est une réflexion assez fréquente. Donc je crois qu'il faut, pour analyser tout ça, convoquer la démographie. Les amphis augmentent. Tout à l'heure, vous avez vu passer le professeur Pélissier qui vient de recevoir lundi, comme moi, ces nouveaux externes. Ils sont 14. Ils étaient vraisemblablement 5 ou 6 il y a 7-8 ans. C'est plus la même façon d'enseigner, c'est plus le même rapport aux gens. Il faut ne pas oublier l'histoire. L'homme de demain est celui qui a la meilleure mémoire, qui se souvient le mieux de son passé. C'est une paraphrase nietzschéenne, donc je m'excuse de l'imprécision. La sociologie a une part majeure. Il faut savoir comment se comportent les gens, comment ils vont se comporter. On n'est pas tout seul dans notre tour d'ivoire, on est dans une société qui évolue, qui est mouvante, et on est inclus, notre discours est inclus dans cette société. Et puis, Polymède doit venir aussi à notre secours, ou du moins participer du discours. La politique, avec son discours changeant, un petit peu toujours irritant pour tous être dans la praxis, j'allais dire, elle doit être prise en compte. Il faut les convoquer, il faut les faire s'exprimer. Il faut que s'exprimant, ils nous écoutent. Ça, si on arrive en disant « écoutez-moi », un politique vantera ses mérites, mais ne vous entendra pas. Si vous voulez qu'il vous entende, il faut le laisser s'exprimer d'abord et dire « mais c'est très très bien, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement ». Donc pour conclure tout ça, je pense que la féminisation, c'est un vrai sujet, on aime bien dire à Sciences Po, c'est un vrai sujet, il est économique, il est social, et il y a une analyse sociétale à faire de cette féminisation. Les instances décisionnelles, ce sont quand même elles qui ont les cordons de la décision par nature, ou les cordons de la bourse qui fait la décision. Il faut qu'elles en prennent conscience, qu'elles voient ce que ça veut dire. On ne peut pas continuer à faire comme avant, comme depuis 30 ans, c'est pas possible. Enfin, petit clin d'œil, si je peux me permettre en guise de postface, on pourrait un jour, 2030, 2040, comme disait Mme Marie Dubernet, qui elle aussi est sociologue, on pourrait peut-être voir le problème s'inverser, et peut-être qu'en chirurgie, ce ne sera pas moi qui serai à cette place, peut-être que vous convoquerez dans 25 ou 30 ans une dame pour expliquer qu'il y a une grande menace sur la chirurgie française, c'est l'arrivée des hommes. Je vous remercie. Alors, là, il y a des données historiques, il y a des données sociologiques. La Grèce est un pays où 75% des anesthésistes sont des femmes, par exemple. En Belgique, il y a pas mal de femmes chirurgiens aussi. En Angleterre, les courbes sont parallèles à la France, quand il n'y a pas cette donnée historique ancienne comme la Grèce. En Espagne aussi, vous avez pas mal de femmes chirurgiens. Et la problématique, ce que je vous mettais sur une des diapos, est à peu près la même. Il y a une augmentation massive. Chose amusante, pourquoi il y a des femmes en médecine, finalement? Alors, l'analyse naturaliste, c'est de dire, oui, c'est parce que ce sont des mères, et qu'elles aiment soigner, et qu'elles sont dans l'amour et dans le care, comme on disait tout à l'heure. Oui, certes, et pas seulement. Les hommes vont plus vers les études commerciales, financières, bénéfices matériels, on va dire, ou alors dans les sciences dures. Peut-être un peu moins qu'avant, mais enfin, sciences dures, donc physique, chimie, maths, choses comme ça. Mais il y a une chose qui est très amusante. Si vous faites le portrait robot d'un candidat en P1, donc à l'examen où il y a tellement d'échecs, vous apercevez que si vous faites une analyse sociologique fine du candidat qui aura le plus de chances d'être reçu en primant, donc en premier concours, c'est un garçon avec un an d'avance qui a eu une mention très bien à un bac S et qui est d'une famille qui gagne plus de 60 000 euros par an. Donc, il y a un impact socioculturel absolument majeur. Autre petite chose aussi dans les données, les femmes sont d'origine sociale plus élevée que les garçons dans le milieu médical. Ça aussi, ça pose un problème aux sociologues qui se disent « mais ces femmes vont entretenir une espèce de, on va dire, d'aristocratie bourgeoise par le fait qu'elles sont toutes issues de milieux plus aisés que ne sont les garçons qui arrivent au même rang de responsabilité dans la médecine. » Ça, c'est une autre réflexion sociologique. Mais les femmes sont plus nombreuses parce qu'elles se présentent plus que ne se présentent les garçons. Ça, c'est absolument clair. Et au départ, on dit oui, mais on sait très bien que les garçons, c'est des adolescents mal terminés jusqu'à 35 ans. Oui, mais pas seulement. Je suis un farouche partisan, comme disait Guitry, les femmes, je suis contre, tout contre. Il faut absolument comprendre que c'est une chance extraordinaire pour la chirurgie. Pour toutes les raisons que j'ai essayé de vous expliquer, apparemment.
Ce que vous voulez expliquer, c'est qu'il faut faire des réformes.
Non, ce que j'explique. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que pour que les femmes arrivent en chirurgie, ça a été un combat pas possible, avec des obstacles pas possibles. Maintenant, elles y sont, c'est une chance pour la chirurgie. L'éthos du chirurgien va se modifier. Par contre, il faut que l'économique et le politique ne passent pas à côté et réalisent ce que ça induit d'un point de vue, je ne recommence pas tout ce que j'ai dit, sociétal, financier et législatif. Et il ne faut pas rater ce passage-là, c'est ça que je veux dire. Sinon, on va avoir des conséquences certaines sur la disponibilité, sur la continuité des soins, sur la répartition. Je pense que c'est un problème de réorganisation. Avec, une fois de plus, je ne tire pas sur l'homme blanc, je suis chirurgien, je passe pour être un organisateur, on va dire, potable. C'est un problème d'organisation. Tant qu'on laissera des gens dans des structures qui immobilisent du personnel soignant, des médecins, des compétences, pour faire un ou deux gestes par jour, c'est pas tenable. On n'a plus les moyens de ça. Tant qu'on aura des hôpitaux universitaires où vous opérez 5 jours par semaine et qu'on vous dit les blocs, c'est pas possible d'aller après 14h30, c'est plus possible. Mais c'est des problèmes d'organisation. On ne peut plus, grand docteur, grand professeur, dire « je veux ma salle avec Madame Machin, j'arrive ». Les équipes sont là depuis 7h30 le matin et vous arrivez frais comme un gardon, il est 10h30. Vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Ça se voit, même dans un CHU génial comme le mien. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut changer. C'est la position de pouvoir du mâle dominant que la femme bat en brèche et ça lui permet de se reposer des questions. Et j'ai pas fait le descriptif du chirurgien conquérant, mais je vous conseille très vivement de lire certaines études ethnologiques ou ethnographiques, notamment anglaises, sur le comportement des chirurgiens. Vous vous dites, c'est pas possible, c'est un singe d'une tribu attardée, ou quoi. Et quand vous lisez ça et vous regardez ce qui se passe autour de vous, il y a des fois, vous êtes un peu troublé quand même. C'est un problème, c'est en partiel.
C'est un
derrière
problème,
ça,
oui.
C'est un problème d'organisation. Alors, après, je vais devenir désagréable, mais c'est vrai que c'est absolument honteux, le comportement de certains de mes corréligionnaires, on va dire. Je suis désolé, il y a des 80%, la dame dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mon PH, là, c'est quelqu'un qui a 100%, elle fait 200%. Chez nous, on ne sait pas ce que c'est qu'une récupération, c'est autre chose. C'est-à-dire... c'est du sacerdoce, plus de notre temps, et ainsi de suite. Mais ce que je vous ai mis d'ailleurs sur une diapo, le 80%, il est plus productif s'il est bien géré et bien fait. On est absolument d'accord.
Ça pose un problème dans le libellé. C'est-à-dire, on dit, ah oui, mais c'est normal, il est à 80%, donc il travaille moins, etc. Ça pose un problème dans la mentalité des gens. Je crois
le problème conceptuel, il est sémantique, si je peux me permettre, c'est ce fichu terme de précarité. J'ai horreur de ce terme qui est reconnu par tous, Et on met là-dedans le temps partiel, les arrêts maladie, la grossesse. C'est pas de la précarité, c'est de la gestion du temps. C'est un petit peu différent.
Et quand on disait, ben, 6 mois,
j'ai consulté hier matin. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin
trouble.
J'ai eu droit à la même phrase. Hein.
Ah bon.
Ils vont rendez-vous avec vous, il y a votre nom sur la blouse, vous dites qui vous êtes, et vous faites une consultation de 20 minutes, et à la fin, le patient vous dit, mais qui va m'opérer? Par contre,
non, mais ce que je veux dire, c'est que...
je vous interromps une seconde parce que ça illustre le propos. Chez nous, on est 4 seniors. Il y a 2 mâles, 2 femelles. Il y a un vieux mâle, dominant, c'est comme ça, c'est la position historique. Et évidemment, à la visite, quand une des femmes explique à son patient ce qu'elle lui a fait, ce qu'elle va lui faire, ce qu'il va devenir, quand le patient répond, allez, on va dire 1 fois sur 2 maintenant, mais avant c'était 9 fois sur 10, évidemment, il se tourne vers le plus vieux mâle. Donc il me répond à moi alors qu'elle est de l'autre côté du lit, qu'elle vient tout de suite pendant 10 minutes lui expliquer son truc. Ça, c'est. Mais ceci dit, regardez bien, et vous devez le savoir parce que votre carrière n'est pas si longue que ça à vous voir apparemment. Avouez que même sur les 5 dernières années ou 10 dernières années, il y a eu un changement du patient au chirurgien femme. Ce que je vous raconte, c'était systématiquement. Alors, on a une seconde ?
Oui.
Quand j'étais externe en neurochirurgie à Lariboisière, il y avait un vieux pharmacien qui, après sa retraite, avait décidé qu'il allait refaire médecine. Et ce monsieur de 70 ans arrivait tous les matins, le papillon, sapé comme un Milord, à la visite. Et j'étais chez Maître Houdard, monsieur Houdard en neurochirurgie, Houdard, Raymond, la science. Et donc, on passait la visite. Monsieur Houdard, qui pourtant avait vraiment de l'abattage et un compteur extraordinaire, faisait ce que je viens de vous raconter de ma chère PH au malade, et immanquablement, le patient regardait notre pharmacien derrière, qui évidemment était près de la porte, parce qu'à la paix à l'époque, je vous dis, la visite n'était pas en hiérarchique. Hein. Donc l'externe, il était tout au bout, et c'était absolument habituel. Donc il ne faut pas que les statuts deviennent des identités. Et ça, le chirurgien vieillissant, mais comme disait Nietzsche aussi, ils sont nés vieux. Alors méfiez-vous de cette histoire. Enfin, vous devez avoir eu ce genre d'aventure. La rigidité intellectuelle n'est pas forcément parallèle à la chronologie. Hein. Et il y a des élèves de patrons qui sont encore plus rigides, guindés et bornés, disons-le franchement, que n'étaient leurs maîtres. Hein. Ça, c'est extraordinaire.
Mais je crois que... On aura gagné lorsque, quand on embauchera un nouveau chirurgien, on s'occupera pas si c'est un homme ou une femme.
Bien sûr.
Je crois que là, toutes les barrières seront tombées. Et je suis pas sûre que cet avenir n'est pas si proche de nous. Je pense que ça va arriver très vite. Et moi, je suis beaucoup plus optimiste.
Pour moi, bien sûr, pour moi, l'avenir, l'écart. Mais de toute façon, mathématiquement, si on fait simplement des comptes, 2008, 40% de chirurgiens femmes, je suis désolé. 2008, 5 ans d'internat, 2 ans de clinica, ça fait 7. 2015, vous avez 40% de femmes chirurgiens. Voilà. Quand vous devrez prendre un chef de clinique, à moins d'être un machiste invertébré, comme dirait l'autre, vous n'allez pas regarder d'abord si c'est une femme ou si c'est un homme. Vous allez voir s'il est bon, il n'est pas bon, machin, il fait ce qu'il faut ou pas.
Mais c'est pas si vieux, la période où on regardait, c'est un homme ou une femme.
Mais bien sûr, bien sûr. Il y a une histoire célèbre que vous connaissez peut-être, je ne donnerai pas le nom parce que c'est célébrissime. Femme, chef de clinique brillantissime de chirurgie thoracique, son patron la caressait vraiment sans aucune mauvaise connotation dans le sens du poil. Et puis quand est arrivé le jour de l'agrégation, enfin où il fallait déclarer à l'agrégation, elle va le voir en disant bah, alors monsieur, présenté ou pas, et le gars, mais vraiment comme ça, je l'ai connu cette femme, elle en avait encore des très mollos dans la voix, il m'a dit, mais tu t'imagines quand même pas que je vais faire nommer une femme. Elle a tenu la boutique, elle a fait des trucs, c'est un chirurgien exceptionnel. Et bon, ça, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on est en voie de disparition de ce genre d'histoire. Vraiment. Alors, ça n'a pas du tout été mis en avant. Ce qui a été mis en avant, c'est pour les médecins généralistes. Il y a eu des études hein, très précises de temps, le temps de la consultation, le nombre de malades vus, et ainsi de suite. Et effectivement, les femmes... Pardon ? Voilà. Les consultations des femmes étaient plus longues, donc du coup, elles voyaient moins de malades. Alors, ça, c'est en cascade après. Donc, elles avaient moins de revenus à la fin de l'année par rapport à un type qui allait plus vite, et ainsi de suite. Le chirurgicalement parlant, c'est, alors je peux vous donner mon exemple très très précis de la boutique, il n'y a strictement aucune différence en faisant le correctif de la compétence, de l'âge dans la profession. Si vous voulez. Il se trouve qu'on a une jeune chef de clinique, évidemment, elle va moins vite, donc elle fait moins que, mais ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'elle soit femme ou homme. Alors vraiment, aucun. Trop gentil de me l'offrir, celle-là. C'est des arguments naturalistes absolument...
Purement machistes, c'est ça ce que vous
Non, naturalistes. Je n'ai pas dit machistes. C'est naturaliste. Je veux dire, il y a une féminisation globale de la société. Dans la Constitution, vous avez le principe de précaution. Vous mettez tout ça à l'aune de la modification des comportements et vous aurez votre réponse à la question de la tumeur que l'homme aurait osé enlever il y a 5 ans qu'il n'osera plus enlever aujourd'hui. C'est pas parce que c'est une femme qui sera au bistouri, comme dit l'autre, que la décision ne sera pas prise. Ces femmes sont des femmes chirurgiens. Elles sont chirurgiens avant d'être femmes, j'allais presque dire. Ce qui est aussi naturaliste, j'aurais pas dû le dire. Mais c'est un peu ça. Ce qu'il faut comprendre, moi je crois, vous êtes chirurgien apparemment, on ne pénètre pas dans le corps de l'autre à coup nul. Ça n'est pas vrai. Vous êtes un anxieux permanent, vous allez boire, vous allez faire je sais pas quoi, prendre des colas, vous allez péter votre ulcère, très bien. Vous êtes un mégalo machin, vous allez faire des activités à risque, regardez autour de vous. Alors c'est de la caricature, certes, mais c'est pour faire à gros traits. La femme a un comportement humain qui est un peu différent, c'est lié à son côté plus tellurique, plus proche de la matière, de la terre. Elle aura même, au contraire, peut-être plus de sens pratique. Là encore, c'est des arguments naturalistes que j'aime pas trop, mais sur ce genre de décision, n'oubliez pas à qui vous avez affaire. Quand elle en est à enlever votre tumeur cérébrale, elle a quand même le même passé que vous, culturellement, intellectuellement, et ainsi de suite. Dans les années qui viennent de s'écouler, qui plus est, elle aura sans doute eu à se battre plus que vous. Donc, moi, je ne suis pas inquiet sur la décision et la validité de sa décision. Et pour moi, c'est vraiment, alors, absolument aucune différence sur la décision thérapeutique. Je crois que c'est un argument qui n'est pas recevable aujourd'hui. On pourrait être dans un système... Je suis en train de... Je ne trouve plus le pays. Je ne crois pas que ce soit l'Allemagne, mais c'est peut-être. Alors, c'est sous réserve. Où il y a un dû. Il y a une dette. Autrement dit, au Danemark, il y a une dette, on a ces... Voilà. Vous êtes obligé, pendant un temps, 2, 3, 4 ans, de vous installer en zone supposée défavorisée. C'est une façon de faire. Mais de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de l'injonction, si on veut que les choses bougent. Le problème, il est, quel est le politique qui aura suffisamment de courage pour faire de l'injonction? C'est une chose, et s'y tenir, c'en est une autre. Parce que voir les. Voir 2007. Et le discours des gens des ministères le font remonter très très bien. La grève des médecins, pas un problème, s'en foutent. Les discussions avec les syndicats médicaux, ils savent très bien que celui qui signera l'année d'après, ce sera l'autre qui partira dans l'opposition, et le premier reviendra signer. Donc. Pour eux, c'est réglé. Ils craignent qu'une chose, c'est les mouvements des internes. Parce que les internes ont un peu l'oreille du public, ce n'est pas les nantis comme les grands docteurs. Ils sont les gens qui font tourner la machine. Ils savent très bien que les hôpitaux sans internes, ben mon Dieu, des grands professeurs qui retournent prendre des gardes aux urgences, il n'y en a pas tant que ça. Oui, et ils craignent énormément ça. Donc... Il faut, enfin moi je pense qu'il faudra changer un petit peu les comportements, mais ça, je vois difficilement quelque chose de passer en façon très très douce pour ce qui est de cette histoire. Non. Et voilà, mais qui ira jusqu'à l'injonction et surtout la portera jusqu'au bout.